La radio qui fait.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat.
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. On avait prévu ce soir de faire une partie de l'émission sur le 1er mai. En fait, cette partie sera toute petite, puisqu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors, sur Reims, qu'en dire, si ce n'est que la quasi-absence, pour une fois, c'est rare, de la CGT. Et surtout, de la CGT qui lutte, c'est-à-dire, je pensais aux cheminots, pas là. Si tu auras, pas là non plus, les deux boîtes qui ont lutté ces dernières semaines... ne sont pas déplacés au 1er mai.
D'une manière générale, oui, de la représentation syndicale, en tous les cas, beaucoup moindre de ce que, un, on peut espérer par rapport au 1er mai, deux, ce qu'on a l'habitude de voir de la part des organisations susdites, comme tu l'as dit, avec, on va dire, des représentations habituellement présentes qui s'affirment. Paradoxalement, était beaucoup plus présent, avec de gros guillemets, on va dire, une partie plus politique des cortèges. Évidemment, vous l'imaginez bien, nos amis de la France insoumise qui étaient venus en nombre derrière une banderole. Bon, alors, poliment, hein, en fin de cortège, hein, sont bien élevés ces gens-là. Des gens qui étaient plus dans une démarche clairement politique. Alors,
à noter quand même la présence de 80 Kurdes environ.
C'est ça.
Hein, c'est quand même assez rare sur Reims qu'il y ait autant de Kurdes dans la rue.
Qui constituait au moins un quart, si ce n'est un tiers, de l'ensemble du cortège. Alors, dans d'autres villes du département, ça s'est déroulé autrement. Il y a eu plus de monde. Ça, c'est habituel. Hein. Quelque part, on est toujours en queue de peloton. Puis, dans d'autres villes, on compte environ... Selon les estimations, mais on peut dire qu'il y a eu 100, 120 à 150 000 personnes en France, ouais. Avec des soucis dans plusieurs villes et un peu plus de 40 interpellations, 47 je crois, interpellations à Paris, ouais. avec des heurts avec la police une fois de plus, et des policiers qui ont eu la main lourde sur la dispersion. Puisque à Nation ça a cogné, ouais. Quoi. Voilà, hein, alors est-ce que c'est interrogé alors que les syndicats et plus particulièrement la CGT avaient fait de ce 1er mai, de ce dimanche, un rendez-vous, c'est clairement un échec, hein. Par rapport à ce qu'elle est possible de faire. Est-ce qu'il y a une frilosité par rapport au fait, justement, à force de dire que la CGT et les syndicats font pas de politique, quand on leur demande d'en faire, ils savent plus. Hein, donc les gens, ils ont peur, ils restent à la maison. Est-ce que les gens n'ont pas pu ou n'ont pas voulu se saisir de cet enjeu-là, ou alors est-ce que tout simplement parce qu'ils étaient en vacances et qu'il faisait beau et que c'était à 10h du mat et que c'était le matin, ils se sont dit on va pas se faire chier à aller manifester, on y va tous les ans, ça change rien, bon quand il faudra bouger on bougera, mais là on n'a pas envie de donner de l'avoine aux chevaux politiques, quoi. Bon voilà, hein, c'était pas étonnant, mais on aurait pu penser quand même qu'il y ait un peu plus de monde, quoi. C'était quelque chose.
Au niveau des entreprises surtout.
Des gens qui auraient pu se déplacer, ça aurait déjà quelque part créé et animé les collectifs.
Alors, apparemment, il n'y a pas qu'Arras, même dans d'autres villes où d'habitude ça mobilise plus, Poitiers, Limoges, là où il y a un peu plus de monde, quelques milliers de personnes à chaque fois, Lyon aussi, ça a été. Ça a été la même chose, sauf que peut-être moins prononcé, puisque c'est quand même des gens qui, d'habitude, au niveau des cortèges, sont des nombreux, cortèges importants.
Ouais.
Voilà. Donc, faut dire qu'on rentre dans une période de politique aérée, hein, c'est clair. Les négociations pour l'union de la gauche.
C'est pas la politique aérée, c'est l'union de la gauche. T'en as de bonnes, toi. C'est pas pareil.
Voilà. Bon. Je sais pas si on y reviendra.
Peut-être en résonance avec le son qu'on va écouter, qui est la rediffusion d'une émission qu'on aime bien, qui passe sur Radio Libertaire, une radio qu'on n'aime pas, mais qui a quand même des émissions chouettes des fois, et qui s'appelle Sortir du capitalisme, et qui là pose une question et propose une analyse intéressante de notre point de vue.
Alors, c'est long. Il y aura, je crois, au moins deux, peut-être trois émissions, puisqu'il y a un autre volet qui vient de sortir.
Ouais.
Vous pouvez entendre, parce que vous allez voir, c'est dense.
C'est dense, donc il faudra qu'on revienne sur plein de choses.
Vous pouvez réécouter ça sur Spectre Média.
Ouais, ou sur le site et sur le blog de Sortir du capitalisme. Vous mettez Radio Sortir du capitalisme et en général, vous tombez dessus. Alors, les émissions sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Elles sont quand même, il faut remarquer, particulièrement parfois ardues et dense, on a toujours l'impression d'être un peu moins con après avoir écouté ça, donc c'est plutôt sympa, mais ça nécessite de prendre son temps, hein, c'est pas les grosses têtes, hein. On espère qu'on va peut-être un peu la boucler pour écouter, puis pouvoir revenir un peu dessus.
Après,
le thème quand même de l'émission, on peut le dire, c'est qu'est-ce que c'est que cette notion et qu'est-ce qu'on entend par anticapitalisme, qui est souvent, comme nombre de slogans qui sont balancés dans l'espace public et dans les milieux dits révolutionnaires, mais qui sont rarement interrogés et rarement définis. Et ce que propose donc Armel et ses camarades, c'est de revenir sur cette notion et de voir ce qui la distingue d'autres formes de revendication à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler le mouvement ouvrier large ou la gauche, ou en tous les cas le mouvement social en particulier. Voilà.
Alors aujourd'hui, on va faire une émission où on va se demander qu'est-ce que ça veut dire de sortir du capitalisme. Pourquoi le titre de cette émission ?
Le projet de base de sortir du capitalisme qui a été créé donc il y a plus de 5 ans, ça part d'un constat que on a dans l'espace public et médiatique un certain nombre de critiques du capitalisme. Des critiques du capitalisme qui s'énoncent généralement sous la forme d'une critique du néolibéralisme, d'une critique de la mondialisation et de ses effets dévastateurs, notamment d'un point de vue social et environnemental. Ou encore une critique des inégalités et de leur accentuation dans les 40 dernières années. On va dire que ce discours-là, qui se dit anticapitaliste, on l'entend, et notamment voilà, quand on fréquente des cercles de gauche et d'extrême-gauche, mais même plus généralement dans les médias, on en entend parler. Le problème, c'est que finalement, tous ces discours anticapitalistes, c'est que qu'est-ce que ça veut dire capitalisme dans anticapitalisme ? Et qu'est-ce que ça veut dire de contester le capitalisme, de critiquer le capitalisme ? Ou d'appeler par exemple à changer le système, par exemple pour reprendre le mot d'ordre des manifestants qui défendent le climat, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est vrai que souvent, on peut avoir l'impression, et c'est pour ça que du coup, on a créé cette émission, que finalement, le capitalisme était réduit à certaines de ces manifestations, effectivement, qui sont particulièrement violentes et dures, que ce soit donc sa phase néolibérale depuis 40 ans, avec les plans d'austérité, la baisse des budgets public dans des secteurs comme la santé ou l'éducation, une flexibilisation du marché du travail qui rend les licenciements par exemple plus faciles. Le capitalisme est aussi perçu uniquement comme équivalent à sa phase de mondialisation depuis à peu près aussi 40 ans, c'est-à-dire où finalement ce qui poserait problème dans le capitalisme, et c'est réel, c'est le fait que le capital, les entreprises, pourraient se délocaliser par exemple dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, et cette possibilité, évidemment, elle affecte concrètement la vie des gens qui du coup perdent leur emploi, ou qui se retrouvent mis en compétition avec des entreprises implantées dans des territoires où la main-d'œuvre est moins chère, un impact direct sur leur niveau de vie à travers une baisse des salaires ou une stagnation des salaires. Et puis d'autre part, souvent, il y a une équation implicite qui est faite entre capitalisme et la montée spectaculaire des inégalités depuis 40 ans, avec notamment le fameux mot d'ordre des 1% contre les 99%, les 1% qui domineraient le monde, des super riches qui, aurait une fortune accumulée largement supérieure à celle des 99%. Et là, effectivement, c'est encore une fois, c'est vrai, tous ces constats sont exacts. Il y a effectivement un accroissement énorme des inégalités, et notamment aux deux extrêmes, c'est-à-dire que l'extrême pauvreté augmente et aussi l'extrême richesse. Le problème avec ce genre de raisonnement, c'est que on a l'illusion qu'il suffirait d'un coup de baguette magique avec quelques réformes sociales pour mettre fin au capitalisme, ou en fait, en réalité, mettre fin à ce qu'on identifie comme des excès du capitalisme et qui du coup implicitement sont mis en opposition à des aspects qui finalement seraient normaux, naturels du capitalisme, et qui seraient d'une certaine manière l'économie réelle. Et du coup, il suffirait voilà de quelques réformes pour mettre fin à la mondialisation, et du coup aux effets de la mise en compétition des êtres humains à l'échelle mondiale, et notamment des travailleurs. Il suffirait de quelques réformes également pour diminuer drastiquement les inégalités, par exemple à travers des réformes fiscales, comme le propose Thomas Piketty, un état social plus important, etc. Et puis, pour finir, il suffirait finalement de revenir à un keynésianisme, disons une politique économique qui est fondée sur le fait de non pas donner de l'argent aux entreprises, mais plutôt donner de l'argent aux gens, d'avoir des bons services publics, et comme ça, voilà, la machine économique fonctionnerait bien, et on en aurait fini avec les plans d'austérité qui minent notamment le système éducatif et de santé aujourd'hui.
Du coup, c'était un projet de critique des altercapitalismes et des anticapitalismes de façade qui existent dans les discours de nos jours, surtout du côté du souverainisme, mais aussi des milieux de plus de gauche radicale aussi.
Oui, c'est ça. Je pense que le projet de l'émission, c'était d'essayer, disons, de démystifier un certain nombre d'illusions. Parce que effectivement, il nous semble que il y a un certain nombre d'illusions à gauche et à l'extrême gauche, comme quoi finalement, il ne suffirait de pas grand-chose, entre guillemets, pour résoudre les problèmes de la société. Alors, non pas tellement dans le sens où il suffirait finalement de 2-3 manifs et boum, tout serait réglé. Mais plutôt qu'il suffirait finalement de prendre le pouvoir de l'État, notamment à travers le jeu légal des élections, et que à partir du moment où le mouvement, disons, social, représenté, disons, par un parti de gauche, ou de gauche radicale avec beaucoup de guillemets, comme par exemple la France insoumise. À partir du moment où la France insoumise, mettons les pieds dans le plat, serait au pouvoir, elle pourrait prendre un certain nombre de réformes qui seraient susceptibles de résoudre l'ensemble des problèmes dont on a parlé. La crise écologique, par exemple, avec la question de la planification écologique, de résoudre les inégalités par une politique anti-austéritaire, de relance, de l'économie, de soutien aux secteurs en difficulté, de revalorisation des salaires, de revalorisation du SMIC. Également, il y aurait des mesures qui seraient prises pour mettre fin à la compétition à l'échelle mondiale avec un retour partiel, plus ou moins fort, disons, au protectionnisme, à voilà des barrières douanières. Et donc, finalement, avec ces réformes, une fois qu'on aurait le pouvoir d'État, on pourrait revenir, et c'est ça l'illusion aussi qui est sous-jacente, on pourrait revenir à une époque où finalement les choses étaient bonnes, ou du moins pas si mal, et qui sont les 30 Glorieuses. On voit dans la gauche française, finalement, que la période de l'après 1945, de l'après-Seconde Guerre mondiale, jusqu'après, disons, aux années 70, et le tournant néolibéral, le basculement dans la mondialisation, etc., etc., ça aurait été une sorte d'âge d'or des classes populaires et des classes moyennes en France, et notamment parce que, voilà, il y avait un État fort et protecteur avec la mise en place de la sécurité sociale. Il y avait aussi un État qui menait une politique keynésienne, c'est-à-dire une politique qui consistait plutôt à soutenir la demande économique, donc en gros à soutenir le pouvoir d'achat, plutôt qu'à soutenir l'offre, c'est-à-dire la compétitivité des entreprises. Et d'autre part, voilà, il y avait une politique aussi relativement protectionniste qui faisait que la France n'était pas exactement en compétition contre le reste du monde. Bon, ça, c'est le récit un peu mythique d'une partie de la gauche qui pose aujourd'hui deux problèmes. Le premier problème, c'est que c'est une vision des 30 Glorieuses qui est largement fantasmée, puisque les 30 Glorieuses, elles sont effectivement une période pour une partie des classes populaires et des classes moyennes qui est effectivement une période qui est meilleure qu'aujourd'hui. C'est indéniable, où les services publics étaient mieux développés sur une plus grande partie du territoire, c'est indéniable. Néanmoins, il faut bien se dire que ça ne concerne pas toutes les classes populaires et toutes les classes moyennes, notamment les femmes et les personnes racisées, c'est-à-dire les personnes qui, en France, ne font pas partie de la majorité blanche. Eh bien, ces personnes-là étaient reléguées à des postes généralement sous-payés et étaient globalement exclus de ce compromis social fordiste, c'est-à-dire le compromis social qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il y a la crainte dans les classes dominantes françaises d'une révolution de type bolchevique, et où le compromis, c'est pas de révolution, mais on augmente les salaires, partage des fruits de la croissance entre les salaires et les profits. Mais évidemment, tout le monde n'était pas inclus dans cette espèce de compromis, et notamment ceux qui avaient les salaires les plus bas, c'est-à-dire les femmes et les personnes racisées.
Donc on pourrait dire qu'il y a une fausse conscience historique dans la gauche, qui a oublié totalement les luttes passées, qui se sont même développées à l'intérieur de la phase fordiste du capitalisme. Elles se sont acquises au récit qui a été fait de cette période, même pendant cette période peut-être.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, le concept de 30 Glorieuses, c'est un concept qui a été développé par un économiste qui s'appelle Jean Fourassier, et qui est pas du tout quelqu'un, évidemment, de critique. Lui, ce qu'il donne, c'est le récit finalement d'une espèce de période idéale entre 1945 et 1975, où il y aurait eu une forme d'harmonie sociale, où tout le monde aurait été gagnant finalement, avec un partage équitable entre guillemets entre salaire et profit. Or, effectivement, comme je l'ai dit, ce partage entre guillemets équitable ne se faisait pas au profit de toutes les classes populaires, mais seulement, disons, des hommes blancs, ouvriers qualifiés, employés et des services, mais souvent les femmes et surtout les personnes racisées se retrouvaient de facto exclues de ces avantages, entre guillemets, qui, il faut le rappeler, ont été concédés parce que les classes dominantes, la bourgeoisie, avaient peur d'une révolution en France après 1945.
On pourrait dire que l'histoire nous montre que ce compromis a servi la remontée en puissance de la bourgeoisie et du coup la phase néolibérale, en fait. C'est-à-dire que la stabilisation des rapports de classe avec le compromis fordiste, il a permis la montée en puissance après de la bourgeoisie et l'instauration du néolibéralisme.
Bah bien sûr, on peut effectivement le voir comme ça, même si c'est peut-être un peu téléologique. L'histoire n'allait pas forcément dans cette direction, mais disons que ce qui est sûr, c'est que en 1945, les classes dominantes en France sont discréditées parce qu'elles ont collaboré massivement avec l'occupant allemand, et donc il y a une crise de légitimité énorme. C'est ce qui fait que le Parti socialiste et le Parti communiste, qui sont les deux partis qui sont censés incarner l'opposition à la bourgeoisie en France, sont majoritaires aux élections en 1945-1946. Donc les classes dominantes, disons, sont apeurées, et effectivement elles ont besoin du compromis social fordiste pour échapper à la révolution, donc c'est-à-dire en l'occurrence à l'expropriation, hein, puisqu'elles avaient peur, voilà, de perdre leurs biens, de voir leurs biens nationalisés et confisqués, notamment parce qu'elles avaient collaboré avec l'occupant allemand. C'est ce qui va les permettre de se remettre en selle tranquillement pendant la fin des années 40, les années 50, 60. Et disons que dès que le rapport de force va de nouveau être en leur faveur, après, disons, le reflux des luttes des années 70, là, ça va leur permettre effectivement, comme tu dis, de passer à l'offensive et, par exemple, de mondialiser le processus de production, qui va leur permettre, évidemment, de mettre en concurrence tous les travailleurs, non pas dans un seul pays, mais à l'échelle de la planète, même si c'était déjà un petit peu le cas pendant les 30 Glorieuses, mais disons, de manière encore plus radicale. Et c'est cette mise à compétition à l'échelle mondiale, évidemment, qui va leur permettre d'accroître leurs profits, de revenir, disons, à des niveaux de profits, par exemple, et des niveaux d'inégalités qu'on n'avait plus vus depuis avant la Première Guerre mondiale. Au moins pour ce qui est des inégalités, si on suit quelqu'un comme Piketty, qui est loin d'être un anarchiste d'ailleurs. Et effectivement, cette stabilisation des rapports de classe dans les années 50-60, c'est aussi ce qui va leur permettre, évidemment, de, disons, passer à une politique néolibérale. Alors cette politique néolibérale, on va y revenir, hein, elle s'explique pas uniquement par une offensive des classes dominantes contre les classes populaires et dans une moindre mesure les classes moyennes, mais disons que le rapport de force est revenu en faveur de la bourgeoisie à ce moment-là, et c'est ce qui leur a permis évidemment de mener une offensive dans les années 80-90 avec les fameuses politiques néolibérales. Et juste peut-être une précision sur le concept de rapport de classe pour celles et ceux qui ne seraient pas, qui n'auraient pas forcément d'idée de ce que ça veut dire. Les rapports de classe, ça désigne en fait les rapports entre différents groupes sociaux en fonction de, si on l'a fait général, de leur niveau de richesse respective. Et puis effectivement, si on va au fond des choses, on se rend compte que c'est pas seulement une question de richesse, mais aussi de la place qu'ils occupent dans le système économique. C'est-à-dire que tout en bas, on a les gens qui ne reçoivent qu'un salaire, qui peuvent espérer recevoir un salaire, puisque on va dire que vraiment tout en bas, il y a ceux qui ne reçoivent même pas de salaire, que les marxistes, par exemple, appellent le lumpen prolétariat. C'est-à-dire vraiment les gens qui sont dans l'économie illégale, qui n'ont pas de travail, etc., etc. Disons, pas d'emploi stable et formel. Après, on a le prolétariat, entre guillemets, qui renvoie, disons, dans notre imaginaire aux classes populaires. C'est les gens qui ont un travail ou qui peuvent, du moins, espérer un travail dans l'économie formelle et stable, mais qui ne reçoivent qu'un salaire, qui n'ont d'autorité envers personne et qui souvent reçoivent un salaire qui est peu ou prou, disons, le minimum social, donc par exemple en France, donc c'est le SMIC. Après, au-dessus, on a les classes moyennes, qui sont un peu différentes parce que les classes moyennes, souvent, elles n'ont pas que leur salaire. Elles sont souvent salariées, mais parfois elles ont aussi un héritage de leur famille. Elles peuvent avoir une maison, par exemple, une maison de famille. Elles ont un petit patrimoine, souvent, hein. Elles ont aussi souvent des diplômes. Elles ont aussi souvent un langage qui leur permet théoriquement de réaliser une ascension sociale. C'est pour ça que c'est très dur quand on vient des classes populaires de devenir, par exemple, un grand capitaliste ou un ministre. Par contre, depuis les classes moyennes, c'est un petit peu plus facile. Parce que, par exemple, il y a plus de réussite scolaire dans la classe moyenne. Donc, ils ont des intérêts qui sont un peu différents de ceux des classes populaires. Et c'est pour ça qu'on peut parler de rapport de classe entre eux. Parce que souvent, les classes moyennes, dans leur rapport de classe avec le prolétariat, vont par exemple exprimer des formes un peu de condescendance ou de mépris, parce que les classes populaires, voilà, seraient un peu arriérées, seraient pas très cultivées, seraient pas très diplômées scolairement, etc., etc., qui sont aussi des formes de légitimation du fait que ces classes moyennes ont souvent plus d'argent que les classes prolétaires, et aussi qu'elles bénéficient directement de leur autorité sur les classes prolétaires. Il suffit de penser aux profs, qui sont pourtant parmi les moins bien lotis dans les classes moyennes, et parfois c'est pour ça qu'on peut parler de prolétarisation. Et effectivement, dans une certaine mesure, les classes moyennes, une partie des classes moyennes aujourd'hui sont en train de se prolétariser, mais c'est une tendance et ce n'est pas encore quelque chose d'acté, puisque par exemple, être prof, ça donne quand même l'autorité. Alors effectivement, c'est une autorité qui est plus ou moins réelle ou plus ou moins forte, mais qui donne quand même une autorité, disons, légitime et légale sur une vingtaine ou une trentaine d'élèves. Et c'est le genre d'autorité, par exemple, que n'aura jamais quelqu'un qui vient des classes populaires, qui est vraiment tout en bas de la société. Et puis après, si on remonte, hein, là, on reste un peu schématique, on a effectivement ce qu'on peut appeler la bourgeoisie, dans une définition un peu classique, ceux qui possèdent les entreprises. Alors, ça, c'est un petit peu schématique. En réalité, on peut distinguer dans la bourgeoisie peut-être trois classes. Une qu'on devrait vraiment appeler la petite bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui possèdent des entreprises, mais c'est des petites entreprises avec pas de salariés ou un peu de salariés et qui du coup sont des capitalistes au sens propre, c'est-à-dire qu'ils ont une entreprise, ils se battent, ils sont pas sur le marché du travail, eux ils sont vraiment sur le marché des marchandises, à essayer de réaliser des profits en vendant leurs marchandises, en diminuant leurs coûts de production, etc. Ils ont un niveau de revenu qui s'approche des classes moyennes, mais en même temps ils ont la place économiquement des capitalistes. Eux ils ont une situation un petit peu spécifique. Après, il y a ce qu'on appelle la bourgeoisie, mais qui en réalité correspond plutôt aux classes moyennes supérieures, et qui eux sont, disons, des gens qui sont salariés, mais qui, d'une part, sont aussi un peu des capitalistes, parce que ils reçoivent souvent de l'argent sous forme de dividendes. Donc souvent, c'est des salariés, par exemple, qui vont gagner 10 000 euros par mois, mais qui en même temps vont être aussi un peu des capitalistes, puisqu'ils vont avoir des actions dans leur entreprise ou dans un certain nombre d'autres entreprises, et donc ils vont en tirer des revenus. Donc du coup, ils font partie de la bourgeoisie aussi dans ce sens-là, dans le sens où ils sont pas complètement des salariés, donc ils sont pas complètement dans la classe capitaliste. Et puis après, les troisièmes, ceux qu'on connaît évidemment, c'est les super riches, pas forcément super riches, mais enfin disons, ceux qui possèdent des entreprises, et du coup, qui tirent l'essentiel de leurs revenus de dividendes, ou de placements financiers. Et donc, eux, effectivement, ils ont une place très, très particulière dans le processus de production, puisqu'ils possèdent vraiment des entreprises, ils ne sont pas salariés. Et donc, voilà, un peu schématiquement, on pourrait évidemment complexifier un petit peu cette analyse, mais les rapports de classe, ça désigne les rapports structurels entre ces différents groupes que j'ai présentés brièvement, et qui sont des rapports qui s'expriment à la fois sur les lieux de travail, par exemple, entre, par exemple, la classe moyenne et le grand capital. Ça va prendre la forme de le grand capital qui va sommer les managers de faire telle ou telle politique. La classe moyenne, là, en l'occurrence, sera dans une position de subordination vis-à-vis de la grande bourgeoisie. Et puis, en dessous, eh bien, les managers, eux, vont dire aux ouvriers ou aux employés qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est structurel parce que c'est tous les managers qui ont autorité sur tous les employés et les ouvriers. C'est pas simplement un ouvrier et un manager. Et c'est pas, et ça marche aussi dans les rapports entre les autres classes, par exemple, entre la grande bourgeoisie et la classe moyenne. Donc c'est ça qu'on veut exprimer par rapport de classe, c'est disons des situations qui ont l'air individuelles, où on se dit « Ah oui, mais là c'est juste un manager qui domine ses employés et ses ouvriers ». Non, tous les managers ont autorité structurellement dans le capitalisme sur les ouvriers et les employés, il leur dit quoi faire, il est mieux payé qu'eux, etc., etc. Et après, ça s'exprime aussi pas que sur le lieu de travail, même si c'est la manière la plus simple de le comprendre. Ça s'exprime aussi, par exemple, politiquement. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir.
Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, on pourrait dire aussi que le discours anticapitaliste de nos jours, il a une vision du capitalisme comme uniquement des rapports de force, des rapports presque uniquement des rapports politiques, et qui va du coup expliquer le fordisme uniquement comme une nouvelle domination de la bourgeoisie, alors que peut-être qu'il y a des rapports économiques qui ont déterminé plus ou moins ce changement.
Oui, effectivement, c'est important de préciser rapport de force politique, parce qu'effectivement, la gauche et l'extrême gauche ne voient pas typiquement tellement, ou en tout cas pas suffisamment, le fait que les rapports de force ne sont pas des formes d'excès du néolibéralisme ou des politiques managériales, de la mondialisation, etc., mais que ces rapports de force qui s'expriment par exemple à l'intérieur de l'entreprise et qui ne sont pas du coup des rapports de force politiques en tant que tels, ces rapports de force sont structurels. C'est-à-dire que dans la société capitaliste, il y a à l'intérieur des entreprises structurellement des rapports de domination de classe et qui existaient pendant les Trente Glorieuses, où c'était les ingénieurs qui disaient aux ouvriers et aux employés ce qu'il fallait faire, tout en étant mieux payés et en étant plus légitimes socialement. Et les ingénieurs, à leur tour, étaient dominés, enfin bon, d'une manière bien moins violente et bien moins dure, par les actionnaires des entreprises qui leur disaient « voilà, c'est ça les objectifs de production, à vous de vous débrouiller pour les réaliser ». Donc, c'est effectivement important de préciser rapport de force politique parce que finalement, ils ne voient pas le caractère structurel des rapports de force et c'est pour ça que, à mon avis, il faut parler de rapports de classe pour bien insister sur le fait que ce ne sont pas des rapports de force interindividuels, mais bien, il y a bien une dimension structurelle là-dedans. Et puis effectivement, ils voient surtout les rapports de force politique, dans le sens où finalement, tout se jouerait à l'échelle finalement du système politique, des élections, et donc d'où l'importance de prendre le pouvoir d'État et de mettre en place des réformes, sans voir effectivement que l'essentiel des rapports de force, des rapports de classe, se joue finalement en dehors de la politique. Même si effectivement, il se joue aussi dans la politique, mais à mon avis, d'une manière peut-être moins réductrice que l'envisage la gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne suffit pas de voter Mélenchon pour changer drastiquement les rapports de classe aujourd'hui. Et on peut même dire que même en élisant Mélenchon président de la République, cela ne changera pas fondamentalement les rapports de classe. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec Mitterrand, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais je pense que les expériences finalement de prise du pouvoir de parti de gauche et de parti de gauche, il y avait un discours radical. Mitterrand, quand il est élu en 1981, il a un discours explicitement anticapitaliste qui, par certains aspects, est beaucoup plus radical que celui que Mélenchon tient aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir à l'esprit, voilà, qu'effectivement, prendre le pouvoir politique, c'est pas tout, et il y a un certain nombre de limites qui se posent. Alors après, dans ta question, ça c'est un aspect qui est important et sur lequel il faut venir, c'est que j'ai beaucoup insisté sur l'aspect de rapport de classe, mais dans le capitalisme, tout n'est pas réductible au rapport de classe. Il y a effectivement des contraintes structurelles liées aux impératifs de marché qui font que même les classes dominantes dans le capitalisme ne font pas ce qu'elles veulent. C'est-à-dire que, certes, les classes dominantes dans le capitalisme cherchent à maximiser leurs profits, sous forme notamment de dividendes, par exemple, aujourd'hui, les dividendes des actionnaires. Mais pour autant, cela n'explique pas tout. Les capitalistes sont obligés quand même, pour réaliser leurs profits, d'être compétitifs, d'avoir des entreprises compétitives sur le marché. Et donc ça veut dire qu'effectivement, ils doivent sans arrêt rechercher à améliorer l'efficacité de leurs moyens de production, à ajuster le volume de leur production par rapport aux impératifs de « il faut pas trop de stock, mais en même temps, il faut pouvoir répondre à la demande à tout moment ». Ils doivent effectivement constamment, et c'est ce que disait déjà Marx en 1848, constamment révolutionner leurs moyens de production, révolutionner les entreprises, les méthodes managériales, et c'est pour ça que il y a eu une succession de formes de management au cours de l'histoire, le taylorisme, le fordisme, le toyotisme, etc., etc. Ce qui est nouveau radicalement avec le capitalisme, c'est le fait que les classes dominantes ne peuvent pas simplement se contenter d'une attitude passive, c'est-à-dire celle, on va dire, du seigneur féodal de manière un peu caricaturale, qui se contenterait chaque année de recevoir une somme d'argent ou une quantité de biens en nature qui serait automatiquement reversée chaque année, simplement en vertu du rapport de force, du rapport de classe entre seigneurs et paysans. Là, effectivement, ce qui est nouveau dans l'histoire du capitalisme, c'est le fait que les classes dominantes, elles tirent leur pouvoir et leur richesse du fait que, là je généralise, il y a effectivement certains segments de la bourgeoisie qui ne tirent pas leur pouvoir de ça, par exemple les hommes politiques, mais disons, on va dire, le grand capital tire sa fortune du fait que leurs entreprises sont compétitives sur le marché. Et donc, elles sont obligées donc d'innover constamment, de sortir des nouveaux produits, de battre la concurrence, de produire moins cher, mais de produire aussi de meilleure qualité, de séduire les consommateurs, etc., etc. Là, voilà, on pourrait dire, voilà, ce sont là des banalités. Mais le fait que ces classes dominantes soient constamment obligées d'investir dans leurs entreprises pour rester compétitifs sur le marché, ça veut dire aussi, et ça, c'est des implications politiques, que si le grand capital ne peut pas faire ce qu'il veut, les États non plus ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les États modernes sont fondés sur l'impôt. Et l'impôt, globalement, ça reflète la bonne santé, entre guillemets, de l'économie. C'est-à-dire le fait que dans cette économie, il y a de la création de valeur à travers la vente de marchandises et puis donc aussi la réalisation de profits. C'est pour ça que les États modernes ont besoin, entre guillemets, que l'économie capitaliste tourne à plein régime, donc qu'il y ait des profits, même si effectivement ils peuvent affecter la répartition entre salaire et profit, ça c'est dans leur corde, on va dire, théoriquement, hein, parce que même si en réalité c'est beaucoup plus compliqué, mais théoriquement, les États modernes peuvent effectivement influencer comment se répartit la création de valeur ajoutée, mais par contre, le fait qu'il y ait de la création de valeur ajoutée, ça, c'est quelque chose auquel ils peuvent pas vraiment renoncer, parce que sinon, ça les met en banqueroute. Et donc, ce qui fait que les contraintes impersonnelles du marché, la loi d'airain de la compétition qui pèse sur les entreprises, et c'est pour ça que ce discours sur la compétition, la compétitivité, il n'est pas complètement faux, c'est pas complètement une invention des médias et des élites néolibérales, même si ça les arrange bien puisque ils s'arrangent pour faire peser ces contraintes uniquement sur les salariés et pas aussi sur les profits du grand capital. Mais disons que ces contraintes impersonnelles du marché, elles sont réelles et elles font que les États ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce que ils ont besoin de cette création de valeur ajoutée par les entreprises et donc ils ont besoin surtout aujourd'hui où les économies sont interconnectées avec la mondialisation, que leurs entreprises soient compétitives, et pas seulement compétitives sur le marché national ou même seulement sur le marché continental, mais sur le marché mondial. Et c'est ce qui fait que, même d'ailleurs historiquement, mais encore plus aujourd'hui, le capitalisme est extrêmement compliqué à réformer, puisque les États sont obligés de prendre en compte ces contraintes impersonnelles du marché dans leurs éventuelles perspectives de réforme. Et c'est pour ça que, par exemple, un exemple qui me semble intéressant, c'est la prise de pouvoir de Mitterrand en 80, qui est ce qui est plus proche de l'expérience actuelle si Mélenchon prenait le pouvoir en France en 2022. Mitterrand, il arrive en 1981 avec les recettes classiques de la gauche réformiste. C'est-à-dire, il nationalise des entreprises, il nationalise y compris des grandes banques et des grandes industries, quelque chose qui aujourd'hui serait complètement impensable pour Mélenchon. Il nationalise des entreprises de sorte à pouvoir contrôler globalement les secteurs clés de l'économie. Donc c'est quand même effectivement une forme de réforme assez radicale. Il met en place un contrôle sur le change, donc il essaye de faire en sorte que les capitaux ne se barrent pas à l'étranger, etc., etc. Voilà, c'est ce qui se passe dans les premiers mois de Mitterrand, donc quelque chose d'assez radical qui fait que les riches paniquent, il y en a qui vont en Suisse, etc., etc. Sauf que très rapidement, cette politique, elle se heurte au fait que les entreprises françaises, y compris les entreprises nationalisées, pour faire de l'argent, pour tourner, elles ont besoin de réaliser des profits. Enfin, elles ont besoin de faire de l'argent à minima pour survivre et puis idéalement de faire des profits pour pouvoir réinvestir derrière. Or, le problème, c'est que dans le cadre d'une économie mondiale et même d'une économie européenne, ça veut dire que ces entreprises, elles doivent être compétitives par rapport aux autres entreprises européennes et par rapport aux autres entreprises mondiales. Et c'est ce qui va faire que les entreprises françaises, même nationalisées, etc., l'État va investir énormément d'argent pour qu'elles deviennent compétitives, mais ça va coûter tellement d'argent que ça va pousser la gauche, en 82-83, à adopter un qu'on va appeler le tournant de l'austérité, c'est-à-dire on dépense tellement pour que ces entreprises se modernisent et qu'elles soient compétitives que ça coûte trop cher, il faut baisser les salaires, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple, ça rappelle que les réformes, ça coûte très cher. Je ne suis pas encore en train de développer un discours néolibéral, de dire finalement le néolibéralisme c'est bien, mais c'est-à-dire que la vraie leçon de l'échec de la politique de Mitterrand de nationalisation et de modernisation des entreprises nationalisées, c'est que on ne fait pas ce qu'on veut dans le capitalisme. Si on veut que l'État social fonctionne dans le capitalisme, il faut que l'économie fonctionne, dans une certaine mesure au moins, et donc il faut que les entreprises nationales soient compétitives sur le marché européen ou le marché mondial. Alors évidemment, on peut toujours envisager quelque chose d'assez radical et on se dit, on arrête complètement les exportations et les importations, on devient autosuffisant, on devient la Corée du Nord en plus démocratique. Le problème, c'est que, évidemment, ça entraînerait immédiatement un effondrement de l'économie, puisque l'économie est extrêmement dépendante aujourd'hui des importations et des exportations. Mais mettons que tout s'effondre, machin, on arrive à peu près à relever l'économie, on fait une espèce d'économie de guerre où il y a une pénurie de matières premières, etc., etc. Le problème, c'est que on n'a pas résolu pour autant la question, puisque finalement, les entreprises, certes, elles n'ont plus à être compétitives par rapport au marché mondial ou au marché européen, mais elles ont quand même à être compétitives à l'intérieur de l'économie. Il faut quand même que l'économie française fonctionne, il faut que le marché fonctionne pour que l'État fasse suffisamment d'argent pour faire tourner le système. C'est ce qui, par exemple, dans une économie qui fonctionnait en vase clos, comme l'URSS, a cessé de commencer à fonctionner dans les années 70-80, et c'est ce qui a amené finalement l'URSS à s'effondrer à la fin des années 1980 et au début des années 90. Et puis surtout, bon, alors là, on est vraiment dans la politique fiction la plus complète, la France qui devient l'URSS. Bon, alors déjà, on voit que ça ne résout pas tous les problèmes, puisque finalement, ça ne fait que changer l'échelle des contraintes impersonnelles du marché. Donc là, en l'occurrence, elle serait plus que nationale et plus européenne ou internationale. Mais en plus, ça veut dire que, en même temps, et c'est là où effectivement, contraintes impersonnelles du capitalisme et rapports de classe sont indissociables, c'est que en même temps, les classes dominantes françaises, elles vont pas regarder tout ça sans rien faire. C'est-à-dire que Mitterrand, pendant un ou deux ans, bon, elles ont pu le tolérer, parce que finalement, il faut bien le dire, les actionnaires des entreprises qui ont été nationalisées ont été plus qu'indemnisés, c'est-à-dire qu'ils se sont pas vus fait confisquer l'entreprise. Ils ont été, on leur a acheté leur, l'État leur a acheté leurs actions et à un prix beaucoup trop élevé. Dans un premier temps, ça leur a bénéficié. Et juste pour finir là-dessus, si Mitterrand était allé plus loin, par exemple, qu'il avait décidé, comme en 1917 en Russie ou en 1936 en Espagne, d'exproprier purement et simplement les actionnaires, là, les choses auraient pris une autre tournure et la bourgeoisie aurait probablement française. Alors peut-être se serait exilé ou aurait formé des milices ou aurait essayé de faire un coup d'État militaire, etc., etc. Bon, là, on est dans la politique fiction, mais on sait à travers un certain nombre d'exemples historiques sur lesquels on reviendra plus tard que les classes dominantes ne se laissent jamais déposséder impunément par quelques gouvernements que ce soit, s'ils menacent fondamentalement leur existence et leurs intérêts. Mitterrand, pendant 2 ans, qui leur donne un gros chèque en compensation de la nationalisation des entreprises, ça va. Mais s'il était allé plus loin, évidemment que les choses auraient pris une autre tournure.
Et d'ailleurs, Mitterrand, pour prévenir ce genre de choses d'arriver, s'est très tôt rapproché des États-Unis et leur assurer justement que le PCF ne serait pas au pouvoir, en fait. Parce que précisément, il y a les rapports de classe internes à la nation, mais il y a aussi des rapports de classe internationaux qui font que des expériences gouvernementales de socialisme d'État se heurtent à des murs géopolitiques, en fait. Comme on a vu avec Allende au Chili. D'ailleurs, toutes ces expériences ne sont pas, on pourrait pas dire, ne sont pas des expériences de socialisme réel, dans le sens où c'est toujours une classe moyenne qui s'empare du pouvoir et perpétue les rapports de classe. Mais elle est en concurrence avec le capital international, tout ça.
Oui, c'est effectivement une dimension importante à préciser, c'est que dans la plupart des révolutions qu'on évoque comme des révolutions de gauche, que ce soit effectivement Allende, ou même dans une certaine mesure la révolution bolchévique, ce à quoi on a assisté, c'est plutôt à une prise du pouvoir politique de fractions de la classe moyenne, donc en l'occurrence des fractions plutôt progressistes, comme par exemple le Parti Socialiste Chilien. Ça implique évidemment une redistribution du pouvoir à l'intérieur de la bourgeoisie. C'est-à-dire que, par exemple, au grand ministère, on va plus trouver, les technocrates habituels ou, les fils des grandes familles de la bourgeoisie chilienne. Mais effectivement, on va retrouver plutôt des enfants de professeurs, des professeurs d'université, etc., etc. Mais fondamentalement, ça ne veut pas dire forcément que les rapports de classe ont changé ailleurs que dans l'arène politique, puisque en l'occurrence au Chili, les entreprises capitalistes étaient toujours là, les rapports de classe continuaient de fonctionner, il y avait simplement une redistribution sociale. Il y avait un changement dans le rapport de force, mais c'est plutôt que les prolétaires chiliens, par exemple, se sont sentis en puissance, un petit peu comme en 1936 en France avec le Front Populaire, et donc par exemple se sont armés, et eux ils étaient prêts effectivement à faire la révolution, qui en l'occurrence, là, voulait dire l'expropriation de la bourgeoisie. Mais évidemment, dans la plupart des expériences de la social-démocratie, et c'est là effectivement que la révolution russe est un peu à part, il n'y a pas eu d'expropriation de la bourgeoisie, et ça s'est passé soit d'une manière, soit de l'autre, soit finalement cette social-démocratie a fini par revenir à une politique traditionnelle, après, avoir tenté, de changer un petit peu le capitalisme par des réformes. Donc par exemple, c'est ce qui s'est passé en France à partir de 1983, le tournant néolibéral de la présidence Mitterrand. Donc, et c'est là, effectivement, qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des partis historiquement sociodémocrates, le SPD en Allemagne ou le Parti Socialiste en France, sont devenus globalement une espèce d'autre droite. C'est-à-dire avec une politique légèrement différente sur des questions sociales qui sont importantes, mais qui sont pas des questions économiques. Mais sur les questions fondamentalement économiques, globalement, elles ont la même politique que la droite. Et après, sinon, l'autre alternative, effectivement, le Chili, c'est un bon exemple, c'est quand la bourgeoisie était pas satisfaite ou qu'elle était dans un rapport de force qui lui permettait de faire ça, eh ben tout simplement, elle a éjecté le Parti Socialiste au pouvoir par un coup d'État militaire, comme au Chili en 1973. Parfois, ça peut être aussi en attendant des élections. Par exemple, la Première République espagnole en 1936 a été renversée par un coup d'État de Franco. Alors évidemment, derrière, il y a la guerre civile, c'est plus compliqué que ça. Mais globalement, effectivement, c'est un autre exemple d'un gouvernement, disons, de gauche qui était au pouvoir et que la bourgeoisie est considérée comme allant trop loin, et donc du coup, qui a procédé, disons, à une véritable, là en l'occurrence, une véritable guerre civile pour reprendre le pouvoir. Et effectivement, Mitterrand, c'est intéressant l'exemple que tu donnes. En France, bon, la configuration était pas telle qu'on aurait pu en arriver là, mais c'est sûr que si Mitterrand avait voulu il l'aurait jamais fait, mais disons, si Mitterrand avait fondamentalement atteint aux intérêts fondamentaux de la bourgeoisie en France, c'était difficile de penser que simplement la bourgeoisie aurait tranquillement attendu les élections de 1986 pour reprendre le pouvoir avec la droite. C'est parce que, globalement, les intérêts étaient pas trop menacés que l'expérience social-démocrate, progressivement d'ailleurs de moins en moins social-démocrate, a pu se poursuivre.
On peut parler aussi d'autres expériences social-démocrate, et peut-être dans d'autres conditions. Par exemple, il y a les expériences comme Lumumba, où précisément la bourgeoisie est intervenue pour continuer d'avoir ses gains.
Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant l'exemple de Lumumba, parce que ça renvoie aussi à l'exemple finalement de l'URSS. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourgeoisie déteste les gens comme Sankara ou comme l'URSS, pas parce que ce sont d'authentiques révolutionnaires qui veulent une société émancipée. Bon, ils avaient peut-être des bonnes intentions, hein, y compris Lénine et même y compris Staline, mais disons que ils visaient pas une société émancipée d'un certain nombre de structures oppressives sur lesquelles on reviendra. Mais là où ils menaçaient fondamentalement la bourgeoisie, la seule chose qu'elle regarde, c'est est-ce que on l'exproprie ou est-ce que au moins on diminue sérieusement ses profits. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Lumumba, effectivement, le type de réforme qu'il proposait, notamment la question de la souveraineté alimentaire, ça mettait directement en cause les intérêts de la bourgeoisie post-coloniale qui s'est développée dans la plupart des anciennes colonies, qui est une bourgeoisie, disons, qui vit de l'import-export, qui vit de la dépendance des économies anciennement colonisées vis-à-vis de l'importation de biens manufacturiers, de biens industriels, des lave-vaisselle, des voitures, etc., de la part des anciennes métropoles coloniales, et en échange, voilà, l'exportation de matières premières. Et donc, toute cette bourgeoisie, effectivement, notamment dans les pays d'Afrique anciennement colonisés par la France, dès qu'il y a eu, disons, un homme politique qui a tenté de mettre fin à ce système, souvent, il a été renversé et remplacé par quelqu'un de, disons, qui ne portait pas atteinte à ses intérêts. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que Lumumba soit particulièrement émancipateur. Il a été beaucoup critiqué, notamment pour son autoritarisme, y compris vis-à-vis des syndicats et des mouvements sociaux. Ça, c'est évidemment un pattern qu'on retrouve dans un certain nombre de gouvernements de gauche qui, une fois au pouvoir, se dissocient des mouvements sociaux qui les ont portés au pouvoir et commencent à adopter une attitude répressive. On a vu ça en Amérique latine dans les années 2000-2010. Mais bon, en tout cas, effectivement, l'exemple de Lumumba est intéressant là-dessus, sur le fait que effectivement il voulait réformer la société, mais c'est pas tellement parce qu'il allait mettre fin au capitalisme et à la domination de classe qu'il a été renversé, c'est simplement parce qu'il portait atteinte un peu de manière conséquente aux intérêts d'une certaine bourgeoisie africaine.
Il y a aussi des exemples beaucoup plus récents comme Syriza et son échec à peu près complet.
En fait, Syriza, l'expérience de Syriza a beaucoup été lue à gauche et à l'extrême gauche comme un exemple finalement de la trahison. Ça, c'est quand même un schéma un peu récurrent, c'est l'accusation finalement que les gouvernements sociaux-démocrates ou de gauche radicale, entre guillemets, qui finalement se rallient à une politique qui favorise les intérêts objectivement de la grande bourgeoisie, seraient finalement des traîtres. Alors effectivement, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça dans le sens où, une fois portés au pouvoir, des gens qui n'avaient pas de contact avec la grande bourgeoisie se retrouvent en contact direct avec la grande bourgeoisie, notamment avec la grande bourgeoisie d'État, les technocrates, etc. Et effectivement, peuvent être séduits par la perspective d'une intégration dans cette classe dominante. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le fait que les gouvernements sociaux-démocrates qui héritent du pouvoir, dans la plupart des cas, sauf s'ils décident d'adopter une politique de type l'URSS, c'est-à-dire on abolit les rapports de classe bourgeois, quitte à réinstaurer une autre domination derrière, c'est un problème dont on va parler. Mais disons, on abolit les rapports de classe bourgeois, on exproprie les entreprises privées, etc. Et du coup, là, c'est la guerre mondiale, enfin la Russie, entre 1917 et 1921, suite, disons, à la prise du pouvoir par les bolcheviks et à ces mesures qui décapitaient la bourgeoisie russe et la bourgeoisie internationale qui avait investi en Russie, évidemment, ça a été 4 ans de guerre civile avec des interventions étrangères, etc. Bon, disons, quand les gouvernements sociaux-démocrates décident de ne pas adopter cette politique, disons, de rupture avec l'ordre bourgeois, eh bien, elle se retrouve dans une politique où il faut s'accommoder des contraintes de la bourgeoisie et surtout des contraintes impersonnelles du capitalisme. Il faut que l'économie continue de tourner.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5'9", yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada al dominó. Mira,
se acabó. Tu 5'9", yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancada al dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera.
Alors bon, on va malheureusement couper le collectif de rappeurs cubains qui subit actuellement l'île, qui subit actuellement une grosse répression. Donc leur chanson, c'est Patria y Vida, évidemment en résonance avec le slogan révolutionnaire de Patria o Muerte. Et actuellement, il y a une grosse vague de répression à Cuba où la misère est vraiment très très grande. Évidemment, vous le savez, l'embargo, hein. Depuis 60 ans par les États-Unis. Et puis, les suites du Covid qui ont un impact très très fort sur les fournitures de base. Et on est revenu à des niveaux de misère et de manque d'approvisionnement comme on pouvait avoir au début des années 80, quoi. Et bien sûr, la Russie, qui était un des soutiens, on va dire, logistiques et matériels de l'île, actuellement en proie à d'autres choses et à beaucoup moins de moyens pour soutenir l'économie cubaine qui se trouve dans une situation gravissime. Et évidemment, au lieu de lâcher des trucs, eh ben, le pouvoir joue habilement sur la répression et sur le maintien et sur le renseignement avec la dénonciation d'un ennemi intérieur, quoi. Bon, alors, bon, ça n'a pas de rapport avec si. La première partie de l'émission. Énormément de choses à dire. On va essayer d'être concis. Denis, tu voulais déjà souligner qu'il y avait quelques petites, on va dire, ambiguïtés, ou en tous les cas, choses qui pouvaient être contestables par rapport à l'expérience de 81 et sur Mitterrand, non ?
Peut-être pas, puisque, bon, ça s'est pas trop vu, d'ailleurs, quand on a vécu cette période, qu'on savait qu'il y avait des nationalisations d'un certain nombre de gros trucs, comme les banques, etc., mais on ne se faisait pas trop d'illusions, hein. D'autant plus que les actionnaires avaient été largement
indemnisés
et qu'après, d'ailleurs, quand il y aura des nationalisations, ceux qui vont racheter des boîtes à l'État vont les racheter moins cher, c'est évident.
Alors, il y a peut-être une première remarque qu'on pourrait dire comme ça tout de suite, qui vient aussi en fonction de notre background anarchiste, c'est que l'explication que donnent les camarades, elle est fort juste et tout à fait incontestable, mais elle est parfois empreinte d'un assez fort économicisme, c'est-à-dire qu'il y a une forme très déterministe des rapports de classe qui sont évidemment le cœur de la société capitaliste, et quelque part on peut aussi mettre en avant le fait qu'il y a quelque part une minorisation de ce que peut-être l'État entend, non pas qu'organe indépendant, c'est pas un outil, mais qui a aussi lui une existence propre et qui quelque part existe et se survit à lui-même, c'est-à-dire que il suffit pas de prendre l'État pour le transformer. À l'intérieur de l'État, il y a aussi des dynamiques, notamment sur l'autorité, sur les organes de commandement, sur la haute fonction publique, qui sont des choses qui existent aussi pour elle-même, par elle-même, et que parfois ces phénomènes de blocage dans la transformation de la société dans un projet social-démocrate, ils se retrouvent confrontés pas forcément à des oppositions qu'il peut avoir dans la société, même si
au niveau de des relais et de la bourgeoisie, c'est d'abord la première chose qui vient en compte, mais on va se retrouver confronté cette culture de l'État, à ces organes de l'État qui existent aussi par eux-mêmes.
L'intervenant ne parle pas de capitalisme d'État quand il parle de l'URSS. Mmh. C'est quand même étonnant qu'il ne prononce pas ce terme en l'expliquant, hein, parce que ça s'explique. Peut-être que dans une autre émission, il va y revenir, parce que travailler en URSS, ça n'a jamais été la... Comment dire, c'était terrible, hein, apparemment. Hein, le Stakhanov.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est non seulement les entreprises qui sont créées par l'État, qui abondent aux commandes de l'État, qui sont là pour mener la politique nationale et la politique économique, industrielle de l'État, telle qu'elle est déterminée par ceux qui ont le contrôle, mais c'est aussi toute cette classe bureaucratique qui va, par ses compétences, ou simplement... arriver ex nihilo, parce qu'il n'y a pas de personnel étatique, gérer et à la gestion et à la direction des données qui sont à l'État. On pourrait imaginer, par exemple, que si jamais il y avait un gouvernement social-démocrate qui serait sur la planification écologique, et ben ça serait tous ces gens qui seraient à la décision et à l'organisation de cette bifurcation écologique et qui seraient chargés, là, pour le coup, de trouver les 300 000 personnes pour convertir l'agriculture bio. Et quand surtout en plus on a les pouvoirs de l'État, donc la décision politique et la force, mais aussi qu'on est persuadé qu'on fait les bonnes choses et que ça vaut pour l'intérêt général, puisqu'on est au cœur de cette décision, on a vraiment tendance à être extrêmement autoritaire.
Finalement, la partie qu'on a écoutée là, c'est vraiment la critique fondamentale de la social-démocratie et il ne faudrait pas que les auditeurs pensent que finalement la révolution se fera jamais. Ça n'a jamais été possible. Je crois qu'après, les intervenants vont nous dire qu'il y a eu une révolution qui a été très loin. C'est celle de 36 en Espagne, en Aragon en particulier, avec entre autres l'abolition de la monnaie, etc. Ça a vraiment été très loin. Bien sûr, ça n'a pas été jusqu'au bout, puisque au bout de quelques années tout de même, hein, ça a duré jusqu'en 38, ils ont été écrasés par... il le dira d'ailleurs après, ils ont été écrasés par Franco, mais pas seulement par Franco, par les staliniens, puis aussi par le fait que les Français, les Anglais n'ont rien dit, n'ont rien fait.
Alors là, le processus, il est différent. Il y a effectivement d'abord une victoire du Frente Popular, du Front Populaire et des Républicains qui arrivent, un coup d'État, mais la dynamique, elle est différente. C'est qu'on n'a pas la progression d'une force politique qui va s'emparer de l'État et être victorieux et installer son programme social-démocrate, mais on a, dès le début, des gens qui vont mettre en œuvre, et on va dire, on pourrait dire désactiver, le capitalisme à la base dans les collectivités, dans les communautés et parfois dans les villes, dans les usines avec
c'est ça, le communisme, une gestion c'est et ça. Le communisme libertaire.
Normalement, en tous les cas, au sens où on peut se le représenter, s'il faut donner des exemples réels, même si va y avoir d'autres types de problèmes, notamment dans les villes, mais d'un point de vue rural, on a à la fois la participation directe à la gestion des ressources de ceux qui y travaillent et d'autre part le contrôle politique absolu des habitantes et des habitants sur les décisions industrielles, paysannes, de production qui vont être prises. C'est ce double mouvement en fait qui permet justement, on va dire, d'aspirer et de proposer dès le début à la fois une contre-société mais aussi en fait de rendre caduque l'ancienne société. Alors à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un processus révolutionnaire puisqu'il y a une autre société qui se crée, une autre société qui émerge et qui entre en concurrence avec l'ancien monde, l'ancienne société, celle du capitalisme.
Alors on va s'arrêter là, donc c'est la première partie, la deuxième partie ça sera la semaine prochaine, vous pouvez réécouter tout ce qu'on a entendu là sur le site, alors c'est le site...
Alors soit sur spectre.org,
spectre média.
sortirdukapital.org.
Site de podcast ou directement sur le blog des animateurs de Sortir du Capitalisme. Ou alors, si vous êtes des intégristes, vous allez sur le site de l'OC Libertaire ou sur le blog du Chat Noir et vous pouvez réécouter cette émission avec nos modestes commentaires. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée.